Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Frédéric Rémy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, dans les Midi-Pyrénées. Mmh. Et vous étudiez la cryosphère, notamment les calottes polaires, par la télédétection spatiale. Avec vous, nous allons parler des glaces et du climat. Et nous allons peut-être faire une mise au point sur nos connaissances dans ce domaine. Alors, nous ferons avec vous la distinction entre les glaces de mer et glaces continentales. Nous verrons que la hausse des températures ont des répercussions différentes, suivant si ce sont donc des glaces de mer ou continentales. Nous nous arrêterons également sur les glaciers, avec peut-être un exemple précis, qui est la mer de glace. C'est donc dans le Mont Blanc. Et puis, peut-être que vous nous expliquerez également les différences entre Arctique, Antarctique. Est-ce qu'il y a des fontes ou pas de la banquise? Nous verrons ça avec vous. Alors, peut-être qu'il nous faudrait avoir une question déjà de vocabulaire pour commencer. Quelle est la différence entre glace de mer, glace continentale? Frédéric Rémy.
Merci. Alors, les glaces de mer sont des, comme leur nom l'indique, c'est la mer qui gèle. C'est une très très fine pellicule de glace de entre 2 et 4 mètres d'épaisseur qui recouvre le pôle arctique et le contour de l'Antarctique. En revanche, les glaces continentales sont des glaces qui reposent sur les continents, qui sont donc les glaciers continentaux et les grandes calottes polaires, Groenland et Antarctique.
Alors, c'est ce qu'on appelle les glaces de mer, c'est ce qu'on appelle la banquise.
C'est ce qu'on appelle la banquise, oui.
Et alors, sur ces fameuses glaces de mer ou glaces continentales, là, en l'occurrence glace de mer, sur la banquise, le blanc de ces glaces réfléchit tellement que 15% des rayons du soleil est absorbé seulement, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, là-bas?
Alors, en fait, ce phénomène qu'on appelle d'albédo est un phénomène très très important dans le climat parce que c'est un des mécanismes de ce qu'on appelle de rétroaction positive les plus importants. Ça touche pas seulement les glaces de mer, c'est surtout important au niveau des glaces de mer parce qu'elles sont très sensibles à l'évolution du climat, alors que la surface de l'Antarctique ne varie pas en tant que surface, mais la neige, comme la glace de mer et comme les glaciers, ont un albédo très très élevé de l'ordre, si la neige est bien fraîche, de l'ordre de 0,8-0,9, ce qui veut dire en effet que sur 100% de l'énergie solaire qui arrive, seulement entre 10 et 20% vont être absorbés. Et le reste, à peu près 80-85%, va être émis vers la haute atmosphère. Et ce qui est important, c'est comparer par rapport à un sol nu ou par rapport à l'océan, où là, sur 100% d'énergie solaire, l'océan va absorber 75% de l'énergie et ne va renvoyer que 25%. Ce qui veut dire que un océan, par exemple, si une glace de mer disparaît et met à nu un océan, l'océan va absorber 3 à 4 fois plus d'énergie du soleil que la glace de mer.
En fait, va démarrer un cercle vicieux. En fait, à partir du moment où les glaces vont s'amenuiser, vont se réduire, ça va activer encore plus la fonte.
Le pouvoir réfléchissant des glaces diminuant va augmenter la surface des océans, qui vont du coup réchauffer beaucoup plus vite, qui va réchauffer l'atmosphère beaucoup plus vite et qui va donc à son tour diminuer les glaces de mer. Et c'est ce qu'on appelle les mécanismes de rétroaction positive, c'est-à-dire que ça s'accentue.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les reportages à la télévision, ces morceaux de banquise qui vont se détacher? Est-ce que c'est ces gros morceaux de glace qui vont dériver?
Il y a, en effet, vous aviez raison au début, de peut-être pas assez bien fait, de faire attention au vocabulaire. La banquise, c'est la glace de mer. Et en effet, dans les médias, très souvent, on emploie le mot banquise pour désigner en fait ces gros icebergs ou ces gros morceaux de glace qui viennent de l'océan, qui flottent. Elles viennent du continent, la glace s'écoule et elles se mettent à flotter quand elles sont au bord. Mais elles sont encore accrochées au continent et elles flottent. Et là, en effet, on observe des grandes cassures de ces plateformes de glace et qu'on mélange parfois avec la banquise dans la mesure où elles flottent. Mais elles viennent du continent au départ. C'est pas la mer qui a gelé, c'est la glace qui descend du continent. Et là, en effet, on observe toute une série d'endroits, notamment dans la péninsule antarctique, où on a des grandes, grandes surfaces de plateformes de glace qui se rompent et qui partent à la dérive.
Alors là, c'était pour donc les glaces de mer. Alors il y a peut-être une précision à apporter, c'est que lorsque l'on voit donc dans les médias ces icebergs qui vont dériver, qui vont fondre, on imagine que ça va activer le niveau de la mer, l'augmentation du niveau de la mer. Mais en fait, non, puisque c'est comme si on avait un glaçon dans un verre d'eau. Le niveau reste le même.
Voilà, oui. Que ce soit les plateformes de glace flottantes qui sont accrochées au continent ou la banquise, la glace de mer, en effet, quand ils fondent, dans la mesure où déjà ils sont sur l'océan, ça ne va pas du tout contribuer au niveau de la mer. Mais il faut faire attention, certaines grandes plateformes de glace qui se détachent, on ne sait pas trop, quand c'est des plateformes de glace qui viennent du continent, on ne sait pas trop l'impact que ça a sur la glace en amont. Il est tout à fait possible, par exemple, que ces velages, c'est le terme qu'on emploie, que ces velages d'iceberg un petit peu intempestifs puissent tirer un petit peu plus la glace amont et accélérer le débit de la glace qui vient du continent. Et à ce moment-là, la glace qui vient du continent, elle, quand elle arrive dans la mer, elle contribue au niveau de la mer.
Alors voilà, donc c'est en fait ces fameuses glaces continentales qui vont jouer sur le niveau de la mer à partir du moment où là, ça va fondre.
Voilà.
Alors, ces glaces continentales, ce sont des glaciers essentiellement, et la calotte polaire, et
les calottes polaires. Les glaces continentales, ça va de tout petits glaciers, un peu partout, en Afrique, c'est très très bien réparti spatialement, aux glaciers beaucoup plus gros, par exemple d'Alaska, aux petites calottes polaires, comme le Spitzberg ou le Vatnajökull en Islande, aux grosses calottes polaires, comme le Groenland ou carrément l'Antarctique, qui représente 90% de l'ensemble des glaces continentales. Donc ça va d'un petit bloc de glace en haut d'une montagne bolivienne aux 15 millions de kilomètres carrés de l'Antarctique.
Ah oui, donc en fait dans l'Antarctique il y a aussi en fait un mélange de glace continentale et de glace de mer.
Le continent antarctique est approximativement centré sur le pôle sud. Et c'est un continent qui est entièrement recouvert d'une masse de glace de 2000 mètres d'épaisseur à peu près. Et autour, on a de la glace de mer. L'hiver, la mer arrive à geler. Elle arrive à geler sur une surface de près de 20 millions de kilomètres carrés. Donc c'est quand même conséquent. Et l'été, cette glace de mer australe diminue pratiquement complètement.
Alors effectivement, vous parliez donc de diminution ou d'augmentation suivant si c'est l'été ou l'hiver. Lors de votre conférence que vous avez donnée il y a très peu de temps, à l'Académie des sciences, avec le Bureau des longitudes sur justement glace et climat, et qui nous vaut donc votre venue ici dans notre studio, vous disiez qu'il fallait 6 mois pour que les glaces de mer se forment et 3 mois pour disparaître. Comment on explique une telle différence dans l'échelle de temps ?
En effet, oui, mais les glaces de mer sont... Là, je parlais des formations et des débâcles à l'échelle saisonnière, à l'échelle annuelle. Les glaces de mer sont très longues à se former, essentiellement à cause de la perte de densité. L'eau, dès qu'elle est salée, quand elle refroidit, elle devient plus lourde. Au contraire de l'eau douce, quand elle refroidit, elle devient plus légère. C'est pour ça qu'on peut casser une bouteille en la mettant au congélateur. Mais là, la glace salée diminue, donc est plus lourde, diminue de densité, donc est plus lourde, donc s'enfonce. Et donc c'est la glace en surface se refroidit, et va en se refroidissant donc plonger et se remélanger. C'est-à-dire que pour geler, il faut attendre que les premiers mètres de glace de mer atteignent une température de moins 1,5 degré, moins 2 degrés, en fonction de la salinité. Donc c'est très très long à cause de ce processus. Un lac gèle beaucoup plus vite que la mer.
Mais alors comment on explique que pour disparaître, ça aille beaucoup plus vite ? On pourrait imaginer la même chose ?
Non, parce que la glace, une fois formée, flotte. Mmh. Et que dès que le printemps arrive et que les premiers rayons du soleil, puisque là c'est des régions polaires, où il fait nuit l'hiver essentiellement, dès que le rayon du soleil réchauffe suffisamment, on commence à avoir des trous, ça va fondre en surface, ça va diminuer l'albédo et à ce moment-là ça va extrêmement vite.
Alors là, donc c'était pour les glaces de mer. On va revenir peut-être maintenant à ces glaces continentales. Vous parliez des glaciers. On va peut-être s'attacher à un exemple bien précis, un exemple bien français. C'est la mer de glace. Ouais. Je suppose que c'est un lieu que vous avez beaucoup étudié.
Oui, c'est un lieu qu'on étudie beaucoup parce que c'est un glacier important, historiquement. Très important. Dès le début du XVIIIe, on s'y intéressait. Saussure, Agassiz, Tyndall, tous ces grands glaciologues ont fait leurs premiers pas sur la mer de glace. Et elle est accessible, donc il y a beaucoup de mesures. in situ, qui vont permettre de valider les données. C'est une des raisons pour laquelle on s'y intéresse beaucoup à la mer de glace.
Et alors, quels sont les constats? Quelles sont les études qui sont faites? Quels sont vos constats, par exemple, à vous? J'avais vu, justement, lors de votre conférence, une série de photos où le glacier recule, une des conséquences du réchauffement climatique, mais avec aussi peut-être une déformation du glacier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, en effet, donc, la mer de glace, on la connaît très très bien parce qu'on a beaucoup de mesures in situ et également on a beaucoup de mesures satellites qui, au contraire des mesures in situ, donnent une vision globale du glacier. Parce que c'est pas. Il y a des paramètres qui sont faciles à estimer, comme le recul d'un glacier, il suffit d'être à la base et on voit s'il recule. En revanche, les variations de vitesse, les variations d'épaisseur, c'est beaucoup plus difficile à évaluer et d'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est la variation d'épaisseur sur l'ensemble du glacier. Donc c'est en cela que le spatial est très important. Et le spatial, en effet, récemment nous a permis d'estimer les variations d'épaisseur de la mer de glace depuis le haut à haute altitude jusqu'à basse altitude.
Et là, c'est une donnée très récente, je crois, puisqu'avant, vous n'aviez pas
On a des premières données reportées ou photogrammétriques qui datent des années 80. Mais les dernières données sont des données spot, acquises en 2000, puis en 2004, qui permettent récemment de beaucoup mieux visualiser ce qui se passe.
Quel est l'apport, en fait, d'en savoir plus sur l'épaisseur de ces glaciers? Ma question va être très provocante, mais quel est l'intérêt, en fait, pour vous?
Alors, on n'apprend rien en spatial sur l'épaisseur des glaciers, si j'ai oublié de le dire. L'épaisseur est un des paramètres qu'on ne sait absolument pas mesurer, que ça soit l'épaisseur des glaces de mer, des glaciers, des calottes polaires. On ne sait pas mesurer parce que il n'y a aucun moyen, en tout cas en spatial, de pénétrer jusqu'au fond et puis de mesurer l'épaisseur. Donc ce qu'on mesure sur les glaciers, c'est les variations d'épaisseur. Et les variations d'épaisseur traduisent directement le bilan, l'état de santé du glacier. C'est-à-dire, est-ce qu'il perd de la masse globalement ou est-ce qu'il en gagne? Il peut se raccourcir et gonfler, ce qui est très bien pour lui. Enfin, donc c'est vraiment un des paramètres très très importants.
Alors quel est le bilan de santé de la mer des glaces, Frédéric?
Alors il est a priori en ce moment assez inquiétant. Les premières mesures acquises dans les années 80 comparées avec des données de milieu de la décennie 90-95, on va dire, montraient que le glacier à l'époque s'amincissait à peu près de 1 mètre par an de façon globale à haute altitude comme à basse altitude. Une diminution notable, mais raisonnable.
Un mètre par an, c'est raisonnable.
Un mètre par an, à peu près.
Ça semble beaucoup à notre échelle.
Ça semble beaucoup, c'est vrai, mais de nos jours, quand je dis raisonnable, c'est par rapport à ce qui se passe maintenant. Maintenant, ce qu'on observe, c'est à haute altitude, la perte est toujours à peu près de l'ordre du mètre par an. En revanche, à basse altitude, à partir de 1600 mètres, 1800 mètres, la baisse atteint jusqu'à 4 mètres, voire 6 mètres par an, en ce moment. Donc le mot raisonnable était relatif par rapport à ce qui se passe maintenant. Alors, les pertes à basse altitude, c'est 400 mètres.
Et si je vous suis, ça veut dire que cette fameuse mer des glaces va se trouver en pyramide inversée, avec un sommet beaucoup plus large que
sa base. Alors, pour la mer de glace, c'est pas forcément d'un point de vue dynamique trop grave, parce que ça reste des longueurs pas très importantes. Mais c'est également ce qu'on observe sur le Groenland, ce qu'on observe au Spitzberg, sur le Vatnajökull en Islande, je pense. En fait, c'est tout à fait normal, c'est la réaction du glacier face au climat. Parce que le climat, en effet, va augmenter la fonte, donc à basse altitude. En revanche, vous savez que le réchauffement climatique accentue le cycle de l'eau. Plus il fait chaud,
oui,
plus on a d'évaporation.
Le phénomène d'évaporation.
Voilà. Et donc, plus on a de précipitations. Et donc, de façon un peu paradoxale, le réchauffement climatique conduit à une augmentation des précipitations de neige aussi, puisque l'air à moins 5 degrés va contenir plus d'humidité qu'à moins 7, moins 8.
Et ça, effectivement, vous faites bien de le préciser, voilà. Puisque c'est un détail qu'on oublie très facilement. Voilà. On imagine qu'un réchauffement, en fait, et une baisse des glaciers.
Non, également, il y a une intensification. Le réchauffement produit une augmentation des précipitations d'eau et de neige. Si bien que du coup, les glaces continentales, ça ne touche pas les glaces de mer, c'est notre physique, mais les glaces continentales, selon où elles sont, elles subissent à la fois plus de fonte à basse altitude et plus de taux d'accumulation à haute altitude. Et selon où est le glacier, c'est l'un ou l'autre qui va l'emporter.
C'est-à-dire l'un ou l'autre qui va l'emporter?
Par exemple, la mer de glace est essentiellement à relativement basse altitude et elle, de façon globale, elle perd de l'épaisseur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'effet, et là on sait maintenant sur ce cas de figure-là, c'est bien démontré que c'est essentiellement l'augmentation de l'ablation, donc l'augmentation des températures, qui provoque une augmentation de la fonte. Ça explique plus de 2/3 de l'amincissement. Le Groenland, par exemple, c'est un petit peu différent, c'est pareil qu'au Spitzberg. Ce qu'on observe, c'est que l'intérieur gonfle, parce qu'il neige plus, il n'y a pas de fonte. À l'intérieur, il fait moins 20, moins 30 degrés. Donc, ce qui est l'effet dominant, c'est l'augmentation de taux d'accumulation. Et en revanche, sur la côte, l'effet dominant, c'est l'augmentation de l'ablation de la fonte. Donc, en effet, le Groenland, lui, se déforme énormément. L'Himalaya également, il neige un petit peu plus à haute altitude, mais ça fond beaucoup plus à basse altitude.
Mais alors, tous ces glaciers, l'Himalaya, là, ce que vous venez de citer, s'ils fondent tous par an, ça équivaut à une élévation du niveau de la mer de combien de centimètres ou de mètres, je ne sais pas, de millimètres.
Non, non, pour le moment, ça ne dépasse pas encore, heureusement, le millimètre par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'océan, à l'heure actuelle, se monte, on va dire, à 3 millimètres par an. La montée et la hausse du niveau des océans. Et la contribution des glaciers serait, pour le moment, on estime, inférieure au millimètre par an. On estime, on va dire, dans une fourchette entre 0,5 et 0,7 millimètres par an.
Mais alors c'est beaucoup ou pas ?
Oui, c'est beaucoup. Ça représente à peu près un quart, pour le moment, de la hausse du niveau de la mer. Potentiellement, ça peut s'accélérer par les glaciers. Et pour le moment, les grosses calottes polaires que sont le Groenland et l'Antarctique ne bougent pas. Mais le Groenland commence à donner des signes un petit peu inquiétants de fonte, d'accélération de glaciers côtiers. Autant à l'intérieur, non. Ça ne bouge pas trop, mais sur la côte, ça commence à bouger. Donc ce chiffre, potentiellement, peut un jour vraiment aller beaucoup plus vite. L'ensemble des glaciers ne représente pas énormément en termes de niveau de la mer. C'est 1% des glaces mondiales sont dans tous les glaciers continentaux. Il y a 9% au Groenland. Et ce que je disais tout à l'heure, 90%
dans l'Antarctique.
Donc, le jour où l'Antarctique se met à bouger, là, ça peut être catastrophique, mais on est loin encore. L'Antarctique est, a priori, relativement stable. Mais on a une barre d'erreur sur le Groenland qui est beaucoup plus importante. On n'est pas sûr que dans les décennies qui viennent, le Groenland ne se mette pas à accélérer son écoulement côtier et donc à contribuer au niveau de la mer.
Mais quand vous parlez d'accélérer son écoulement côtier, je suppose que c'est sur une période assez longue, sur des milliers d'années. Est-ce que c'est une échelle, humaine ? Est-ce que ça se compte en centaines d'années ou plutôt en milliers d'années ?
Il semble à l'heure actuelle que même avec les mesures satellites qui datent les plus vieilles de quelques décennies, on observe des augmentations de vitesse de glaciers émissaires au Groenland. Et dans une toute petite partie de l'Antarctique, dans la partie de l'Antarctique de l'Ouest.
Donc c'est quand même dans le futur proche.
Ça, potentiellement, c'est dans le futur proche. Pour le moment, ça ne contribue pas énormément. D'autant plus que l'effet majeur reste pour les calottes polaires, l'augmentation des taux d'accumulation à l'intérieur. Mais ça peut très bien, dans les décennies qui viennent, s'accélérer. C'est une des sources d'incertitude sur l'élévation du niveau de la mer.
Alors ces fontes de glaciers ou fontes là au niveau du Groenland, elles sont imputables à qui essentiellement ? Et bien sûr c'est le réchauffement climatique, mais ce réchauffement climatique c'est parce que c'est inscrit dans l'histoire de la planète Terre, nous sommes dans une période de réchauffement comme il y a pu en avoir, ou c'est parce que l'être humain en fait accélère ce phénomène ?
Il y a deux questions en fait implicitement dans votre question. La première c'est les échelles de temps. Les glaciers continentaux, au contraire des glaces de mer, réagissent avec un certain retard au climat. Les glaciers type mer de glace, ils réagissent avec entre 10 et 30 ans après. Le Groenland réagit quelques milliers d'années après. Et une calotte polaire comme l'Antarctique, l'intérieur est extrêmement longue à réagir. On a près de 4000 mètres de glace à l'intérieur de l'Antarctique. Et la glace est un très très bon isolant thermique. Donc avant de réchauffer l'ensemble de la colonne de glace et de manière à ce que les vitesses d'écoulement s'augmentent, c'est ce chiffre en plus de 10 000 ans, presque en 100 000 ans. Donc l'Antarctique, ça c'était un petit peu la première partie de votre question, on pense qu'il y a certains glaciers à l'heure actuelle qui s'accélèrent dans l'Antarctique à cause du réchauffement climatique du début de l'Holocène, il y a à peu près 15 000 ans. C'est-à-dire que l'Antarctique...
15 000 ans après, le glacier commence à réagir.
Il y a des endroits où ça a bien réagi déjà, mais il y a des endroits où on observe, notamment près de la mer de Ross, côté Antarctique de l'Ouest, qui donne dans la mer de Ross, on observe un retrait de la ligne d'échouage, de la ligne sur laquelle repose la limite entre le socle et la glace, et qu'on attribue partiellement au réchauffement climatique de l'Holocène il y a 15 000 ans. Donc... une partie des glaces en ce moment fondent à cause de ce très vieux réchauffement. Maintenant, ce qui se passe maintenant, le réchauffement supplémentaire qui est à l'heure actuelle...
Induit par l'être humain.
Induit donc par l'augmentation des gaz à effet de serre. Ben là, on sait, les modèles montrent, je ne suis pas tellement spécialiste, mais les modèles montrent que si on ne rajoute pas le dioxyde de carbone qu'on sait que l'homme a rajouté, on ne peut pas expliquer le réchauffement climatique à l'heure actuelle. Et il semble bien, le gros de la communauté scientifique s'accorde maintenant à reconnaître que le réchauffement climatique actuel vient d'une grosse partie des augmentations des gaz à effet de serre.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Frédéric Rémy. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Le philosophe René Girard de l'Académie française poursuit sa réflexion sur la violence qui, échappant à tout contrôle, menace la planète. Il vient de publier un nouveau livre, Achevé Clausewitz. Retrouvez-le sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Frédéric Rémy. Frédéric Rémy, nous nous sommes quittés sur cette question de réchauffement du climat avec une partie imputable à l'homme concernant la fonte de glaciers et puis une partie concernant les glaces continentales imputable en fait à un réchauffement climatique. Mais il y a des années de cela, 15 000 ans, et une réaction 15 000 ans plus tard, un temps de réaction donc très très lent. Dans cette seconde partie d'émission, Frédéric Rémy, j'aimerais qu'on parle du Kilimandjaro. Alors, et effectivement, vous nous en avez parlé lors de votre conférence au Bureau des Longitudes sur donc le thème glace et climat, avec l'idée que l'on se faisait du Kilimandjaro et de ces neiges qui chaque année baissaient. Et les personnes lambda, comme moi d'ailleurs, pensaient que c'était un effet direct du réchauffement climatique. Et donc vous nous avez expliqué que finalement ce n'était pas vraiment direct.
Oui, j'ai cité le Kilimandjaro parce qu'on en avait récemment beaucoup parlé. Un peu comme un contre-exemple, le bilan de santé d'un glacier dépend à la fois du taux de neige, enfin de la quantité de neige qu'il reçoit et de la quantité de glace qui fond ou qui s'écoule. Et en effet, beaucoup de glaciers, comme la mer de glace, on sait, reculent à cause d'une augmentation de la fonte, directement liée à l'augmentation des températures. Mmh. En revanche, le Kilimandjaro, ce n'est pas l'augmentation de température qui fait reculer le Kilimandjaro, mais c'est les diminutions des précipitations de neige. C'est-à-dire qu'il s'assoiffe, il se dessèche, il est plus nourri, donc il meurt petit à petit par manque d'apport de neige.
Mais pourtant, vous nous avez expliqué dans la première partie de l'émission que justement le réchauffement climatique induisait paradoxalement des précipitations de neige.
Ouais, sauf que c'est à grande échelle. À grande échelle, on sait que l'intensification du cycle hydrologique, on sait à grande échelle que le climat se réchauffe, mais localement, on sait très bien, dans la Russie ou dans la partie est arctique, il y a des endroits qui se refroidissent, on le sait, il y a des endroits où il pleut beaucoup moins, d'autres où il pleut beaucoup plus. Le système climatique mondial est une énorme machine dont on aperçoit à peine quelques rouages. Donc en effet, en Afrique, de façon générale, et au Kilimandjaro, c'est la désertification qui est l'élément dominant dans la réaction, en tout cas, du Kilimandjaro.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que le continent se désertifie, c'est-à-dire qu'il pleut de moins en moins, il neige de moins en moins sur ce continent. Mais je veux dire, c'est un cas particulier, local, d'une réaction.
Est-ce que ce phénomène, on le retrouve seulement en Tanzanie, ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs ?
Je ne peux pas vous dire comme ça. À ma connaissance, le Kilimandjaro est l'un des rares glaciers qui meurt par perte de neige. Dans l'Alaska, il y en a qui grossissent à cause de l'augmentation de neige. Il y a à peu près de tout. Il y a 160 000 glaciers sur la Terre et il y en a qui réagissent différemment. En moyenne, ils reculent et en moyenne, c'est à cause de l'augmentation directe des températures. Mais après, il y en a qui avancent. Ceux qui sont face à la mer et qui sont sur un régime pluvieux, eux, au contraire, ont plutôt tendance à grossir.
Alors voilà, c'était ma question qui allait suivre. Est-ce que, inversement, et effectivement, vous le disiez que la répartition des températures allait être un peu différente. Il allait faire plus froid à certains endroits et plus chaud à d'autres. Alors est-ce qu'il pourrait, dans des années, des millénaires à venir, est-ce qu'il pourrait se créer des glaciers ?
On ne pense pas. A priori, de façon globale, de toute façon, il y en aura plutôt moins. Maintenant, localement, il y a plein de scénarios. Je ne suis pas tellement spécialiste des différents scénarios de climat. Mais bon, il y a le scénario qui est bien connu, qu'on commence à remettre en question, je crois, qui est lié à l'impact du Gulf Stream. Les variations climatiques à l'échelle de la décennie, certaines grandes tendances sont connues, mais d'autres ne sont pas trop connues. Et à un moment donné, il y avait un scénario qui était assez à la mode, notamment dans les médias ou même au cinéma, qui était un arrêt ou un changement de trajectoire du Gulf Stream. Et en effet, qui conduisait, à moins le Gulf Stream a pour effet d'apporter de la chaleur, notamment dans le nord de l'Europe. Quand on voit les cartes de glace de mer, par exemple, on voit bien que dans le nord de la Norvège, au bord des îles Lofoten, les glaces de mer n'atteignent jamais les Lofoten, par exemple. Et ça, c'est à cause d'une des branches du Gulf Stream. Si cette branche s'arrête, suite à, par exemple, à un trop gros apport d'eau douce suite à la fonte des glaciers arctiques. En effet, si cette branche s'arrête, c'est un apport de chaleur qui s'arrête et donc on pourrait s'amener à un refroidissement énorme de tout cet endroit-là. C'est un des scénarios qui a été à la mode, je vous dis, il y a quelques années.
Mais qui n'est plus vraiment actuellement.
En tout cas, on pense que c'est pas si simple.
On va peut-être pouvoir, dans cette seconde partie d'émission, nous pencher un peu plus sur l'Antarctique. Où là, dans l'Antarctique, autant alors pour les glaciers, on voit qu'il y a donc une baisse, un recul des glaciers, c'est le terme que l'on emploie, une baisse aussi des glaces de mer. En revanche, pour l'Antarctique, là, le phénomène est tout à fait différent. Ou en tout cas, on n'observe pas la même chose, Frédéric Rémy.
Oui, l'Antarctique, c'est 15 millions de kilomètres carrés. 15 millions de kilomètres carrés, c'est énorme, énorme. C'est un continent...
30 millions de mètres cubes de glace.
Ouais. 30 millions de kilomètres cubes.
De kilomètres cubes.
Ouais, c'est ça. C'est 15 millions de kilomètres carrés recouverts d'à peu près 2 kilomètres de glace.
Comment on pourrait se le représenter ?
On ne peut pas. Si tout l'Antarctique fondait, ça représenterait à peu près 60 mètres du niveau des océans. À l'échelle mondiale. L'Antarctique répandue sur l'ensemble des océans, ça ferait une montée de la mer de 60 mètres.
Ah oui, effectivement, donc, c'est énorme.
On peut voir le volume. C'est un continent, l'Antarctique, et il y a, par endroits, la glace s'arrête au bord, à la côte, et puis fond, et on a quelques icebergs, quelques glaciers qui finissent en iceberg. Mais à beaucoup d'autres endroits de l'Antarctique, et ça représente une part importante de l'écoulement, du contour de l'Antarctique, c'est des plateformes de glace flottantes. C'est-à-dire la glace sort du continent et se met à flotter sur la mer. Et elle reste accrochée au continent. Alors quand c'est un endroit en baie, par exemple, comme dans la mer de Ross ou la mer de Weddell, à ce moment-là, ça peut faire des plateformes de glace qui sont, la plateforme de Ross, par exemple, c'est la taille de la France. C'est à peu près 1000 km sur 1000 km de glace qui est accrochée au continent et qui flotte.
Ah oui, effectivement, on s'imagine pas tout ça, en fait. On imagine simplement une grande étendue.
Une bonne partie du contour de l'Antarctique, et c'est de la glace flottante en pourtour. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, notamment depuis le lancement de RS1 en 1991, on a enfin des instruments satellites qui sont dédiés à l'observation des calottes polaires, notamment de l'altimètre, notamment qui mesure la topographie, notamment des radars qui vont mesurer le déplacement, donc les vitesses, et on a une vision tout à fait différente. Et notamment, il y a une carte que j'ai montrée qui est assez éloquente, où à partir de la topographie de l'Antarctique, on est arrivé à contraindre des modèles et à montrer que l'écoulement est de très très loin pas du tout homogène. C'est pas un écoulement de glace homogène, mais on a quelques glaciers qui représentent quelques pourcents de la côte qui va drainer plus de 80 voire 90% de la glace de l'Antarctique. C'est-à-dire que l'écoulement n'est pas du tout homogène. On a quelques glaciers qui va drainer, dont on voit la signature très loin à l'intérieur de l'Antarctique, et qui vont drainer essentiellement toute la glace.
Alors, là-bas, dire, dans l'Antarctique, la température moyenne est de combien ?
On va dire que sur la côte, il fait moins 10, moins 20,
il fait chaud.
En moyenne. Voilà. Et après, quand on monte, plus on sera proche du pôle, plus il fait froid. Plus on monte en altitude, plus il fait froid. Et on va, par exemple, à Domsay, où on est à 3200 mètres d'altitude, à 1000 km de la côte à peu près, il fait entre moins 30 l'été, moins 70 l'hiver, on va dire. On a des records de froid assez jolis. Hein. Évidemment, l'Antarctique bat tous les records de froid, notamment à Vostok, où on a enregistré un
moins 90.
Voilà.
Et des records de vent aussi ?
Des records de vent. Le vent qui dépasse plusieurs centaines de kilomètres heure. Donc qui casse les anémomètres, souvent. Et souvent, les records de vent, en tout cas à une époque, étaient ceux de la résistance des anémomètres.
Pour pouvoir calculer.
C'est que le vent était plus fort que sa tolérance. Et bon, ça c'est extrêmement vanté parce que l'intérieur de l'Antarctique est très très froid et haut en altitude, donc on a un gradient, on a de l'air qui est très lourd puisqu'il est très froid,
oui.
Et qui va donc dévaler les pentes. C'est ce qu'on appelle des vents katabatiques. Katabateim en grec, je vais vers le bas. C'est des vents de gravité en fait. Et qui ils sont arrêtés là-bas, il n'y a rien pour les arrêter, donc ils accélèrent et arrivent à la côte, ils atteignent par endroits des vitesses considérables.
Et ça c'est à la surface, hein. Mais je crois que dans ces glaces, il y a des rivières et des lacs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors des rivières, on va dire des réseaux hydrologiques, plutôt que des rivières. Mais ça, c'est aussi une des découvertes récentes faites par satellite. On a des cartes de topographie si précises qu'on
arrive. Mais comment par satellite, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur des glaces ?
En fait, on arrive à une telle précision. La topographie, c'est une surface libre. C'est pas très joli comme expression, excusez-moi, mais disons que c'est la glace va se mettre en surface comme elle l'entend, en fonction des lois de la dynamique, en fonction du taux d'accumulation, en fonction du socle rocheux, en fonction des zones de convergence ou de divergence du socle rocheux. Et s'il se passe à la base une anomalie qui entraîne une anomalie d'écoulement, on va le voir en surface. Par exemple, un des trucs admirables qu'on voit très très bien en surface, c'est les lacs. Parce que la glace, normalement, se déforme, c'est-à-dire qu'elle est accrochée. Quand il n'y a pas de lac, c'est un continent. Donc on a des montagnes, la glace est accrochée aux montagnes et se déforme. Donc on a un profil plus ou moins parabolique, mais qui est relativement connu. Et dès que la glace se met d'un coup, rencontre par exemple de l'eau sous glaciaire, elle va se mettre à glisser. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes lois d'écoulement. Et quand il y a du glissement, c'est l'ensemble de la colonne de glace qui glisse d'un seul bloc et du coup qui ne montre plus du tout de pente à la surface. Elle est complètement plate. Et donc on a des cartes de topographie, et par endroit on va voir des zones, au lac de Vostok on voit une zone excessivement grande, de plusieurs centaines de kilomètres de long, plate, complètement plate, entourée de deux petits bourrelets qui traduisent les changements d'écoulement à la base.
Mais comment on explique ces réseaux, ces écoulements ?
Et alors donc voilà justement, bon, c'est ce que je dis, ces topographies sont tellement précises maintenant qu'on arrive en les filtrant, en les analysant, à montrer qu'on a des petites structures allongées, très très fines, qu'on ne sait a priori pas expliquer, mais qui rejoignent les lacs les uns aux autres. Et d'où on en conclut que c'est quelque chose qui à la base perturbe beaucoup l'écoulement, et qui comme par hasard passe d'un lac à l'autre. Et on arrive à démontrer comme cela qu'il s'agit bien de réseaux hydrologiques sous-glaciaires, qui coulent le long des pentes du socle rocheux, sous les 4000 mètres de glace.
Et ça, c'est un reste de l'histoire de l'Antarctique, puisque il y a des millénaires, la zone était beaucoup moins froide.
Non, a priori non. Le chemin que suivent ces réseaux hydrologiques vient probablement des chemins des premiers glaciers, des premières érosions. Ça paraît clair.
Donc vous faites de la paléontologie glaciaire.
Voilà. Maintenant, non, c'est la glace est froide, l'atmosphère est très froide, mais le socle rocheux est beaucoup plus chaud et la glace est chauffée par le bas, par le flux géothermique terrestre. Donc le profil de température est froid en haut, mais plus on va en profondeur, plus la glace est chaude. Et en moyenne, en Antarctique, la température à la base est ou proche de zéro, mais ne dépasse rarement moins 10 degrés. C'est les températures les plus froides à la base de la glace, dans le centre de l'Antarctique. Et par endroits, là où l'épaisseur est très très importante, le poids de la glace et l'éloignement de la surface fait qu'on arrive à des températures proches de la température de fusion, et qu'on a donc des créations en fonction ensuite de la topographie du socle. S'il y a une petite poche qui peut se créer d'eau, de fonte, on a des zones comme ça de lacs, et cette eau sous-glaciaire va s'écouler.
Mais alors comment on explique que l'Antarctique soit une zone où il n'y a pratiquement pas de réchauffement ?
Ça vient essentiellement de l'isolement.
Parce que le réchauffement est un phénomène planétaire.
Alors d'abord, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on explique ou qu'on n'explique pas. Hein. Oui. Si on regarde les données des stations automatiques, qui remontent pour la plupart dans les années 50, 60, on a l'impression, bon, mis à part la pointe de la péninsule qui se réchauffe, ça c'est très clair. Ailleurs, on a eu l'impression à un moment donné qu'on avait un très léger réchauffement climatique mesuré sur quelques décennies. Maintenant, on commence à mesurer par satellite les températures, on mesure des paramètres comme par exemple la fusion. Parce que quand tu as un tout petit peu de fusion en plein été sur la côte, des fois il peut y avoir un peu de fusion de surface. Ça c'est des paramètres...
Qu'est-ce que vous appelez fusion ?
La fonte de surface. Ça c'est un paramètre qu'on sait très facilement mesurer de l'espace parce que ça flash d'un coup sur les capteurs. Et on mesure indirectement, c'est donc lié à la température, la période de fonte en surface qui est juste de quelques jours souvent en plein été à la côte. Et on s'aperçoit que depuis quelques décennies, ça a plutôt tendance à diminuer la fonte de surface, qui tendrait plutôt à montrer que les températures se refroidissent depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. De façon, sans entrer comme ça trop dans les débats, on peut dire que les températures sont globalement stables, là-bas en Antarctique. L'Antarctique est très isolée par l'océan Austral, par le courant circumpolaire, et relativement donc isolée des variations de température ailleurs.
Donc il peut se passer encore des millions ou des milliers d'années avant que nous soyons recouverts par 60 mètres.
Oui, ça c'est sûr. Parce que dans quelques millions d'années, le climat antarctique, on ne peut pas trop le dire. Quelques millions, je ne sais pas, mais quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années, a priori, oui.
Alors justement, vous parlez du futur, quelles sont les perspectives à venir si on se place dans une échelle longue, une échelle de temps très, très élevée? À quoi ressemblera l'Arctique, l'Antarctique, avec les données que nous avons actuellement et avec peut-être les nouveaux outils avec lesquels vous travaillez peut-être?
Non, c'est pas forcément facile à répondre à votre question. L'Arctique, beaucoup de gens, de chercheurs, commencent à dire que d'ici la fin du siècle, dans 100 ans à peu près, il n'y aura plus de glace de mer arctique. C'est vrai que...
Et que des zones très froides comme la Sibérie, on pourra y avoir des champs de blé.
Ouais, mais après le climat local, ça m'embête de généraliser le climat local. On ne sait pas du tout comment localement ça va réagir. En effet, c'est des scénarios. On dit qu'il y aura de la vigne beaucoup plus au nord. Enfin, bon. Non, en ce moment, l'Arctique diminue. Depuis les années 80 à maintenant, au mois de septembre par exemple, l'Arctique a perdu... un mois donné de l'année, bon, il se trouve que c'est le mois où ça le fond le plus, à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Or, souvenez-vous les chiffres que je vous disais au début, hein, c'est 2 millions de kilomètres carrés qui vont absorber 4 fois plus de chaleur. Donc c'est clair que les glaces de mer, quelle que soit la raison pour laquelle les glaces arctiques fondent, toujours est-il qu'elles diminuent de surface et que donc les océans se réchauffent.
Oui.
Et qu'on pense d'ailleurs, à notre époque, qu'un tiers du réchauffement global viendrait de ce réchauffement et de ce mécanisme.
Lié du fait que un tiers du
réchauffement global vient de ce mécanisme qui ne touche que la zone arctique, mais qui...
Donc finalement, ce réchauffement, cette baisse de glace est inéluctable, en fait. Expliqué comme ça.
La glace de mer arctique, a priori, en effet, recule. Maintenant, il y a le climat a des périodes de temps, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Le climat, il y a des périodes à 10 ans, il y a des périodes à 20 ans, il y a des périodes... Il y a toutes les périodes pratiquement temporelles agissent sur le climat. Et pour le moment, on ne les connaît pas encore toutes. Mais c'est vrai que c'est un scénario sérieux, scientifique, qui prédit la disparition des glaces de mer arctique d'ici la fin du siècle.
Même s'il y a un décalage de 15 000 ans, comme vous nous l'expliquiez.
Non, les glaces de mer arctiques, j'entends.
D'accord.
Flottantes. L'Antarctique, a priori, personne... certaines personnes prévoient peut-être un emballement de la partie ouest. Sur la partie est, à ma connaissance, personne ne
prévoit. La partie ouest de l'Antarctique.
Oui, excusez-moi, c'est la plus petite partie. Quand on voit une carte de l'Antarctique, c'est une partie qui est beaucoup plus petite.
D'accord.
Qu'on dit à l'ouest alors qu'on est au pôle sud, mais parce qu'au niveau méridien, c'est les méridiens côté ouest.
Et pourquoi cette zone-là serait peut-être plus sujette?
Elle est plus petite et le socle rocheux a été enfoncé par le poids de la glace. C'est ce qu'on appelle l'isostasie. Le socle a été enfoncé et donc la glace touche l'eau par endroits. Et donc, fait partie des zones où potentiellement le réchauffement climatique peut avoir un impact plus sensible qu'ailleurs.
Mais a priori, le territoire de l'Antarctique ne risque pas de changer avant des millions d'années.
Millions, ça me gêne, parce que millions, c'est quand même beaucoup. Je ne ferai pas de pronostic sur millions. On va dire plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Il y a peu de chances que l'Antarctique, du moins la partie est, bouge significativement.
Alors, vous nous le disiez justement de ces...
Mais là, vous me posez quand même des questions sur une échelle de temps qui est pas forcément facile.
Oui, j'imagine.
Je veux dire, c'est un peu spéculatif.
Je pose quand même la question, sait-on jamais.
Ouais.
Justement, vous parliez des découvertes récentes concernant ces réseaux d'écoulement dans l'Antarctique. Quelles seraient les nouvelles découvertes à venir? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces glaces?
Décidément, vous posez des questions que j'aime pas, auxquelles je réponds pas. Là, je suis désolée. Non, je sais pas. Il y a pas longtemps, il y a 5 ans, je vous aurais pas dit. On va découvrir des réseaux hydrologiques. On n'aurait pas dit il y a 10 ans. On va découvrir que le drainage des grandes.
Des hypothèses étaient certainement émises. Mais après,
sur l'existence de réseaux, oui, elle était probablement déjà émise il y a quelques années, mais c'était sans évidence scientifique a priori.
Alors les prochaines étapes, c'est pouvoir mesurer l'épaisseur des glaces, comme vous
le disiez. En effet, on ne sait pas mesurer l'épaisseur des glaces. Il y a eu un projet, de radar à très basse fréquence, ce qu'on appelle la bande P chez nous, dans notre jargon, c'est des fréquences en dessous de 100 MHz qui pénétreraient. À l'intérieur de la neige. Pour le moment, ces radars à très basse fréquence, on a des mesures déjà, mais aéroportées. Parce qu'ils nécessitent de très très grandes antennes, c'est un des problèmes. Et par aéroportées, c'est pratique parce qu'on peut mettre les antennes le long des ailes de l'avion. Donc on a des mesures d'épaisseur de glace, et c'est vrai que là, ça c'est sûr qu'un jour on découvrira. Donc je peux répondre quand même à votre question, merci de m'y avoir aidé. C'est clair qu'à chaque fois qu'il y a un vol aéroporté quelque part et qu'on voit un profil du socle rocheux, on est ébahi par ce qu'on voit. On voit des failles, on voit des topographies extraordinaires, on voit également ce qu'on appelle les isochrones. C'est toute une série d'endroits qui ont été marqués par des éruptions volcaniques et qui montrent donc l'écoulement qu'a eu la glace, l'histoire qu'a eu la glace. Donc là c'est vrai que c'est un truc assez phénoménal, c'est creuser ce qu'il y a à l'intérieur de l'Antarctique.
Alors, pour terminer cette émission, Frédéric Rémy, on va terminer peut-être sur vos travaux. Est-ce que vous avez un angle bien particulier sur lequel vous travaillez actuellement, avec une équipe certainement qui vous suit ?
J'ai une équipe qui, je m'entends très très bien, une équipe de jeunes dynamiques. On a une dizaine à peu près au laboratoire. Le mot-clé de l'équipe, c'est cryosphère et satellite. Il y a un jeune qui travaille sous les glaciers, et sinon, essentiellement, les autres, on travaille plus sur l'Antarctique. En ce moment, le gros coup de boulot qu'on fait, c'est pour traiter les données, les séries temporelles de l'altimètre, voir si l'Antarctique gonfle en volume ou diminue. Bon, pour le moment, on a les premières cartes, mais il faut encore affiner, il faut encore continuer à corriger. Je crois que c'est l'effort numéro un en ce moment de l'équipe, c'est bien comprendre le bilan de masse et les variations de l'Antarctique, que ça soit par gravimétrie ou que ça soit par altimétrie.
Et donc vous êtes amené à voyager beaucoup et à mettre très souvent vos moufles et votre bonnet.
Non, je laisse les jeunes de l'équipe qui sont plus kamikazes que moi et plus sportifs.
Mais vous l'avez fait pendant de très longues années ?
Non, moi j'ai très peu bougé du labo, si ce n'est pour aller dans les colloques. Mais je suis quelqu'un qui analyse, qui reste au chaud, à regarder les images satellites.
Merci Frédéric Rémy de nous avoir apporté toutes ces informations concernant les glaces et le climat. Je rappelle à nos auditeurs quand même vos fonctions. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS. Et vous étudiez donc la cryosphère, ce que vous nous disiez à l'instant, et notamment les calottes polaires par la télédétection spatiale. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet www.canalacademy.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.